Bonjour Régis Ratapi.
Adi Bonne-Rose.
Ah ouais, ça commence bien. Vous êtes chanteur de tradition et de transmission orale, vous êtes facteur et luthier d'instruments des Pyrénées. Votre spécialité, c'est le chant polyphonique pyrénéen. Et c'est vous qui avez fondé en 2016 le CDMDT des Hautes-Pyrénées à Ibos. C'est le Centre départemental de musique et danse traditionnelle. Bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce Centre départemental de musique et danse traditionnelle, qu'est-ce que c'est? Au fond, ça sert à quoi de créer un lieu comme celui-ci, Régis Ratapi?
Le CDMDT 65 a pour but de valoriser et de promouvoir la culture locale autour de la culture occitane gasconne.
Alors pourquoi vous avez senti que c'était un lieu qui avait vocation à naître dans les Hautes-Pyrénées? Pourquoi c'était nécessaire de créer un lieu comme ça? S'il y avait un manque, vous avez, quel est le parcours qui vous a conduit à vous dire, eh bien, en fait, on a besoin d'un lieu comme ça, qui soit à la fois un lieu culturel, mais aussi un lieu de transmission?
À l'image de la polyphonie, où il faut être plusieurs à s'entendre pour fabriquer un son collectif, l'école, elle est née par une volonté collective avec deux autres profs, qui aujourd'hui ont quitté l'école, sont partis sur d'autres, mmh. d'autres aventures. Mais ça a été une une idée commune, en fait.
Le chant polyphonique dans les Hautes-Pyrénées, en Bigorre et dans les quatre vallées, comme on aime bien dire ici, mm-hmm. sur l'antenne de Radio Présence, ça représente quoi? Le chant polyphonique, c'est quoi historiquement dans la culture pyrénéenne?
Le chant a quand même toujours été présent. Il était avant tout présent dans des lieux informels, que ce soit en famille ou lors de rencontres festives. Et petit à petit, il est venu sur scène, en fait.
Oui, il y a un côté spontané dans le chant.
Ouais, je pense que c'est l'essence même de ce chant. Il faut qu'il reste aussi spontané pour qu'il y ait des portes ouvertes aussi aux gens qui viennent chanter, qui ne connaissent pas. Et ça a été mon chemin qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui.
Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas être musicien, il ne faut pas connaître, savoir lire les notes de musique pour pouvoir chanter, la polyphonie.
Oh, tout à fait. Et je l'affirme avec un grand A. En tout cas, c'est vraiment une musique qui est à la portée de tout le monde. Moi, je transmets, que ce soit de la moyenne section, en passant par l'école primaire, au collège, lycée, jusqu'aux retraités, où on n'a pas besoin de savoir lire une partition pour apprendre à chanter, et surtout apprendre à chanter avec les autres.
Il faut avoir quand même une sacrée oreille, la polyphonie,
Mais c'est comme le footing, hein, ça s'entretient et ça se développe au fur et à mesure qu'on pratique, en tout cas.
Mais alors, dans ce centre, aujourd'hui, vous parlez d'élèves petits, hein, depuis la grande section.
Ouais,
ça veut dire que vous proposez des cours spécifiques pour chaque tranche d'âge. Comment ça se passe, en fait?
Alors, les cours, ils peuvent être au sein du CDMDT, donc du Centre départemental et musique ouais. danse traditionnelle, mais ils vont être aussi en délocalisé. On va dans les écoles.
D'accord. Donc, aujourd'hui, vous intervenez dans combien d'écoles?
Alors ça marche par projet, ça dépend des années. Cette année, je crois que j'ai, je sais pas moi, 5 ou 6 projets dans des écoles primaires. Je vais aussi dans des collèges et je tiens un atelier de chant dans un lycée aussi, au lycée Ricola Vic.
Et vous sentez qu'il y a un intérêt qui grandit pour cette culture pyrénéenne, en particulier pour ce chant polyphonique pyrénéen? Ça intéresse aujourd'hui les gens, y compris les jeunes?
Déjà on éprouve, je vois que les jeunes éprouvent un intérêt à revenir vers... leur source, leur racine, en fait. Ils veulent chanter la langue du territoire où ils habitent. Ils veulent chanter une façon dont ils entendent aussi en famille ou lors des fêtes. Donc chanter à plusieurs voix, chanter en polyphonie.
Oui, alors c'est là qu'on retrouve ce côté spontané, les fameuses canters. Voilà, là, tout d'un coup, on se met à chanter.
Voilà, canters, officielles, officieuses, mais en tout cas, ouais. il en fleurit.
Parfois n'importe comment, mais quand même, ça dit quelque chose dans notre culture.
Je n'irais pas dire n'importe comment. Quoi. ça se structure.
Je savais que ça allait pas vous plaire.
Il faut connaître les codes quand même, voilà.
Alors c'est quoi les codes, justement?
Les codes, c'est que c'est une cantère, pour moi, il faut que ça reste ouvert à tout le monde.
Hommes et femmes.
Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Voilà, et c'est une cantère qui est... On peut venir quand on veut, on part quand on veut, on peut boire un verre si on a envie, on peut manger si on a envie, on chante avec qui on veut. Et ce qu'on veut, voilà, c'est très très libre en tout cas.
En fait, ce chant polyphonique des Pyrénées, c'est un lieu de rencontre. C'est ça, historiquement, c'est vraiment un partage. Qu'est-ce qu'on y raconte dans ces chants? Parce que c'est forcément en occitan ou...
Alors, déjà, c'est intergénérationnel, donc on peut rencontrer... moi-même, j'amène mes enfants sur des canters, où ils ont appris à chanter, en fait, comme ça. Mmh. Et après, ça raconte les thématiques... pour un gros pourcentage, c'est des chants qui sont issus du milieu du pastoralisme. C'est des chants qui sont pas datés, on connaît pas les auteurs, on connaît pas ni qui a composé. Mmh. Donc c'est des chants qui sont véhiculés, donc comme vous l'avez dit, par transmission orale.
Donc c'est par les familles. Depuis, principalement.
Mais pas que. Ouais. Mmh. Oui, il y a un pourcentage par les familles, mais aussi par des moments de vie, de moments festifs. Mmh. Voilà. Moi-même, j'ai appris à chanter dans des moments festifs avec des anciens où on n'a pas de feuilles, on n'a pas de texte, donc on mémorise les textes, on mémorise les mélodies, et ça se fait de façon empirique.
Donc il faut quand même maîtriser la langue. C'est pas en français.
Alors c'est pas en français, je dirais. C'est un petit plus si on comprend un peu les textes et ça permet d'avancer plus vite. Mais aujourd'hui, pour mettre un pied à l'étrier, on peut commencer à chanter en apprenant lors de moments de transmission formelle ou informelle. Mais on peut apprendre. C'est dommage de se mettre des barrières.
Au-delà de l'apprentissage du chant, vous, qu'est-ce que vous avez appris à travers cette pratique-là, à travers le chant polyphonique? Qu'est-ce que vous avez appris de notre territoire? Qu'est-ce qui fait que ça vous a touché, rejoint?
J'ai appris à écouter les autres aussi. D'accord. Il faut d'abord s'écouter soi-même, mais il faut d'abord écouter les autres. Et si on veut que la polyphonie, elle marche, il faut être à l'écoute de ce qui se passe à côté de nous, en fait. Chanter pour soi et en polyphonie, ça marche pas. Il faut qu'on aille chercher la communion avec les autres à côté pour que cette magie des voix qui s'assemblent, des voix qui résonnent, il faut être présent, en tout cas, il faut être... pour que ça fonctionne.
Alors revenons sur les actualités ou le fonctionnement en tous les cas du CDMTT. Vous avez donc des déplacements dans les établissements, mais vous donnez aussi des cours à IBOS.
Mais pas que.
Alors là, comment ça fonctionne? C'est à quelle fréquence? Qui peut venir? Comment on participe? Comment sont mélangés les élèves?
Alors déjà, on est sur trois entités. La voix, les instruments et la danse. Déjà, on a trois pôles déjà.
Donc on choisit le pôle qui...
Ou les pôles. Il y a des gens qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre en fait.
Ouais.
On a de plus en plus. On a fait une stat là sur les dernières années du CDMDT et l'effectif il va en progression. Donc,
vous avez là combien d'élèves en ce moment?
Là on est à 110 élèves à peu près.
Et donc ça continue de progresser.
Oui, ça continue de progresser.
Donc le chant, la musique et les danses.
Tout à fait. Ouais.
Les trois suscitent un intérêt.
Tout à fait.
Y compris la danse traditionnelle.
Plus ou moins, il y a quand même un intérêt pour la voix.
Ouais.
Qui est relativement présent parce qu'on peut faire des cours collectifs aussi.
Ouais.
Moi, j'ai deux ateliers où j'ai quasiment entre 25 et 30 personnes par atelier avec des adultes. Et j'ai un autre atelier au lycée agricole où j'ai 25 élèves.
Donc là, ce sont des ados.
Ados, ouais.
Ou grands ados.
Ados motivés, voilà.
Ados motivés.
Après, il y a une partie instrumentale aussi où, pareil, chaque prof a des spécialités autour de la flûte et du tambourin à cordes, des instruments un peu emblématiques de la Bigorre.
Oui.
Mais pas que. Le violon, l'accordéon diatonique, la cornemuse landaise aussi.
Alors vous-même, ça c'est une de vos spécialités, ces instruments?
Alors moi je fabrique la flûte et le tambourin encore, mais je ne donne pas de cours, je laisse faire les spécialistes en tout cas. Voilà. Et l'accordéon diatonique aussi qui est bien présent.
Alors quand même, pardon, mais pour cette partie instrumentale, là il faut quand même être musicien.
Alors là c'est des... Non, au point de vue des élèves. Non, on a des adultes qui arrivent qui n'ont jamais touché un instrument en fait. Et le premier cours, on les fait jouer.
Alors ça, c'est merveilleux.
Tout à fait. C'est pour ça que je dis quel dommage. Il y a beaucoup de gens qui se mettent des limites.
Effectivement.
Alors qu'on peut, pratiquer une musique, celle-là ou une autre. Hein. En tout cas, nous, CDMDT, on promeut cette façon de transmettre de transmission orale et qui permet de jouer très rapidement en fait un instrument.
Alors, sur les instruments spécifiques là, des Pyrénées, c'est quoi leur particularité en termes de son?
La particularité de ces instruments, c'est qu'ils se jouaient essentiellement dehors pour faire danser. L'origine de ces instruments, ils n'étaient pas sur scène, en fait. Ils étaient pour... ils avaient une place sociale et ils faisaient danser les gens, tout simplement.
Une place sociale, oui.
Et du coup, la flûte et le tambourin à cordes, c'était des musiciens autonomes qui sont capables de faire la mélodie et la rythmique en même temps. Cette spécificité, on la retrouve côté sud et côté nord des Pyrénées, et qui s'étale de Bilbao jusqu'en Ariège, en fait. Donc cette aire géographique, elle est vraiment présente avec des spécificités de ce couple, on appelle ça un couple, flûte et tambourin à cordes, ou flabut et tum-tum, et gascou.
C'est bien, j'aime bien quand vous parlez gascon.
Donc voilà, et ces instruments, ils étaient vraiment présents, on a des choses à tester et quelques vidéos sur l'us aussi.
Donc en fait, ces formations, ces trois pôles que vous proposez, oui. Ils se complètent tout le temps. La musique pour danser, le chant pour accompagner. Enfin, c'est vraiment.
Pour moi, c'est lié, ouais.
C'est tout ça, c'est lié.
Et l'élément central, c'est la langue.
Ouais.
Qu'il a dedans.
Ouais. Alors, pardon, mais quand je vous écoute, Régis Attapie, je me demande comment. Enfin, quel a été, même vous en avez parlé un petit peu, mais quel a été votre parcours pour en arriver là, en fait. On se forme à ces métiers-là, on apprend ça. Enfin,
Alors, pour moi, ça s'est découpé en deux temps. C'est-à-dire qu'une partie de ma pratique, je suis resté amateur. Et à la fois, j'ai eu la possibilité, j'ai été invité par un groupe de chanteurs pro qui m'a permis en fait de me diriger vers des diplômes professionnalisants en tout cas.
Donc il y a un diplôme professionnalisant de oui. chant pour apprendre le fait. Chant traditionnel.
La première étape, ça se passe au conservatoire à Tarbes où on passe un DEM, un diplôme d'études musicales avec une spécialité des musiques traditionnelles. Et si on a envie d'aller plus loin, on peut aller à Toulouse au conservatoire passer un diplôme d'état, ce que j'ai fait, pour pouvoir avoir des bagages en pédagogie et être équipé pour aller sur n'importe quel public en tout cas.
Donc aujourd'hui, c'est quoi votre métier, pour le dire simplement?
C'est un métier passion et du coup, je suis toujours en quête d'apprendre et de me nourrir d'éléments extérieurs qui peuvent venir enrichir cette musique traditionnelle.
Vous n'avez pas fini d'apprendre, là, il y a encore des choses que vous découvrez.
On apprend toute la vie, on apprend.
On entend tout le travail qui est fait, hein, tout au long de l'année, puisque voilà, il y a ces cours qui sont donnés avec ces trois pôles, la musique.
Il y a des cours réguliers.
Des cours réguliers, puis il y a ensuite, des événements.
Il y a des événements, il y a moi je marche par projet en fait. Des écoles qui m'appellent pour un projet sur 2 mois. Donc du coup, on va travailler quelque chose de spécifique sur 2 mois, souvent avec une restitution
oui.
aux parents ou en public. Et ensuite, il y a de l'événementiel, comme j'ai pu le proposer sur des stages de 5 jours.
Donc, ouais, alors, je me suis promenée sur le site internet du CMDT et j'ai vu des séjours, balades et chants polyphoniques. Vous pouvez nous présenter ça? Il y en a en 2026, c'est prévu des séjours comme ça?
C'est possible. Donc, il y en a deux qui sont programmés en 2026. Malheureusement, celui qui est en Corse, il est plein. Il a été plein en 8 jours.
Alors, ce que vous faites ici dans les Hautes-Pyrénées, vous le faites en Corse?
Je le fais en Corse aussi, voilà. Et ça a été initié.
Mais vous ne chantez quand même pas des chants polyphoniques des Pyrénées en Corse?
Non, je ne m'aventurerai pas sur les spécialités corses, mais la musique crée des rencontres, parce qu'en allant là-bas, en fait, moi j'y viens avec mon bagage pyrénées, mais j'ai pu rencontrer des Corses avec qui on a eu des échanges profonds sur la pratique vocale aussi. Et
c'est la même chose? Il y a des différences?
On est cousins, on va dire.
Oui.
On a chacun nos spécialités, chacun les subtilités de la langue et de la musique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette communion des voix et apprendre à écouter les autres, ils sont dans la même philosophie.
Oui, et puis c'est cet amour du territoire que vous dégagez à travers
ce
chant.
De nos territoires respectifs en tout cas.
Ouais.
Et l'ambiance se passe très très bien. Et souvent quand on dit que les Corses y sont fermés, si on y arrive aussi avec notre pratique, ça se passe hyper bien en fait. Moi je passe des moments mémorables chez eux. Pour partager ces soirées ou ces temps d'apprentissage en tout cas.
Et alors s'agissant des séjours que vous proposez ici chez nous dans les Hautes-Pyrénées, il y en a en 2026 alors,
il est programmé aussi et là il reste encore des places, dépêchez-vous. Il est sur la dernière semaine de juin, première de juillet.
Et là ça se passe comment? Ça se passe où? Ça se passe comment?
Alors moi j'embarque les gens pendant 5 jours à chanter. On chante entre 4-5 heures par jour. Des fois plus, il y a des gens qui sont vraiment motivés. Mais du coup, on y va progressivement. Il y a un gros boulot qui se fait sur la technique vocale. Donc vraiment, apprendre à connaître son corps pour maîtriser son instrument
ouais.
et obtenir un geste vocal le plus fluide possible. En tout cas.
Et là, ce ne sont pas forcément des personnes que vous avez eues pendant les cours tout au long de l'année. C'est des personnes
qui peuvent venir
en stage d'initiation, vraiment. Quoi.
Ouais. Aujourd'hui, ça fait quelques stages que je propose ici ou en France, du coup. Et en cheminant sur les routes de la polyphonie, il y a des gens qui ont envie de continuer, d'approfondir leur apprentissage. Mais je suis content d'accueillir aussi des gens du territoire ici pour venir consolider leur pratique ou alors apprendre complètement.
Qu'est-ce que ça change de le faire un peu en immersion dans un territoire, d'aller dans un lieu où on peut faire aussi des promenades? Qu'est-ce que ça ajoute?
Ce qui me plaît, c'est qu'on peut travailler en profondeur. Sur 5 jours, on a le temps de se poser. En fait, aujourd'hui, beaucoup de gens sont speed et ne prennent pas le temps de prendre soin de leur corps ou de leur voix, ou le temps d'apprendre aussi des choses. Et du coup, en 5 jours, on a le temps d'aller tous ces paramètres. Moi, je me focalise aussi sur l'individu et je ne me focalise pas que sur le groupe.
Ça ah mais alors que... ça c'est particulier, ça, parce qu'en polyphonie, c'est le groupe qui compte, non ?
Mais à la fois, il faut développer l'unité.
Alors ça peut marcher quand vous avez un petit groupe, mais comment vous faites quand
Ah mais je prends des temps pour détendre, ne serait-ce que des discussions avec chacun, ou amener des outils qu'une personne a besoin, mais je vais nourrir le groupe en même temps. Ça fait qu'à chaque fois, chaque personne, elle arrive à mener des cordes à son arc pour que la polyphonie collective puisse être nourrie.
Si on n'a pas envie, ou si en tous les cas on ne se sent pas prêt à être élève du CDMDT, est-ce qu'on peut venir quand même vous écouter où et dans quelles circonstances on peut découvrir votre travail? Est-ce qu'il y a des festivals par exemple?
Alors on a un événement qui est majeur qui s'appelle Terre Trad, qui sera le 30 mai 2026, où là on va présenter sur un concert à la collégiale d'Ibos. Tous les ateliers vont jouer soit seuls, soit on va tous jouer en collectif. Et ensuite, le soir, il y a un bal, où là, cette année, ça va être un peu la nouveauté, où tous les élèves ils vont animer une partie du bal. Donc, c'est mettre les gens en mouvement avec le travail qui a été fait de l'année.
Vous êtes combien dans l'équipe pédagogique à porter tout ce que vous nous expliquez, là, à la fois les cours tout au long de l'année, les interventions dans les écoles, festivals, les stages rando et chant, vous êtes combien?
Là, on est 8 profs à peu près sur le CDMDT, avec chacun des spécialités. Depuis le début, moi, j'ai voulu que les profs soient rémunérés. Donc, ouais. Tout le monde est quasiment professionnel de leur discipline. Donc j'essaye d'aller chercher des gens qui sont spécialisés dans le but d'amener les élèves vraiment sur des choses plus pointues et aller de pas rester juste en superficiel en tout cas.
Qu'est-ce que vous diriez, Régis Adapi, à des personnes qui peut-être nous écoutent et se disent bon bah oui enfin tout ça c'est du passé, c'est le chant polyphonique, ça raconte l'histoire d'avant, c'est plus la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour leur dire bah non en fait c'est quelque chose qui nous a été transmis et qu'on a aussi à transmettre?
Que la tradition, elle est vivante, en fait. On la regarde ou on la regarde pas, mais elle est présente sur le territoire, elle est là. Donc aujourd'hui, en fait, moi, c'est pas juste fictif, c'est des gens qui viennent me voir et qui me disent « ça m'intéresse d'apprendre, en fait. Mais je sais pas comment faire. Ben, » Je leur dis « moi, venez au CDMDT, on va vous accompagner. »
Voilà, eh bien bravo. Alors moi, je vois qu'il reste une minute et que peut-être pendant cette minute, vous pourriez nous chanter un petit quelque chose pour qu'on démarre bien l'année 2026 ou au moins nous partager vos voeux en gascon.
Mais en tout cas, chanter la polyphonie seule, c'est difficile.
À mon avis, vous chantez seul aussi, non?
Mais je peux parler, ouais, je peux parler de...
Alors allez-y, vous avez 40 secondes pour présenter aux auditeurs de Radio Présence vos voeux en gascon.
Et Cap Desili, eu à Bounanad, à Bouzaoutis et à toute l'équipe de la radio. Merci Santa l'invitation et qui a eu grand plaisir de partager mes passions.
Merci beaucoup Régis Atapi, je rappelle donc que c'est vous qui avez fondé en 2016 le CDMDT dans les Hautes-Pyrénées à Ibos. Merci d'avoir partagé avec les auditeurs de Radio Présence votre passion. Très belle année 2026 à vous.
Merci Adichat.